Gérard Piquemal, bonjour.
Bonjour, Marianne Paquette.
Je vais vous appeler Gérard.
Merci.
À votre demande. Gérard, vous, je veux commencer en vous citant. Vous avez dit quelque chose de très beau qui va comme suit. Quand on a la capacité de soulager, on se doit de le faire, surtout envers ceux qui en ont le plus de besoin, les itinérants, personnes âgées. Ce besoin-là, vous, vous l'avez ressenti très fort il y a une dizaine d'années.
Oui. Oui, bon, j'ai ressenti ça, si vous voulez, lors de mon stage. Bon, après avoir terminé mon cours de massothérapie, je suis allé suivre un stage à Tremblant. Et pendant mes pauses, je traversais dans un parc en face et j'avais l'habitude, j'ai fait connaissance avec un très vieux monsieur. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à l'apprivoiser un petit peu. C'était un monsieur qui souffrait beaucoup d'arthrose, d'arthrite déformante. Et j'ai commencé à lui masser les mains avec des huiles essentielles. Et au bout de quelques jours, il me dit, je ne sais pas ce que tu me fais, mais mes mains bougent mieux, j'ai moins mal aux articulations. Et il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, je travaille en face au spa. Il dit, si tu veux être utile, ce n'est pas au spa qu'il faut que tu sois, c'est avec nous, dans la rue. Alors c'est un petit peu la graine que ce monsieur a jetée, et puis cette graine a pris quelques années à germer, malheureusement.
Oui, parce que ce n'est pas une structure qui se met facilement en place. En même temps, vous avez eu énormément d'aides de thérapeutes, de massothérapeutes qui ont voulu embarquer dans votre bateau.
Oui, définitivement. Je dois dire que les thérapeutes, pour ça, sont vraiment exceptionnels. Tout le monde veut venir travailler au spa de la rue. J'ai même de la difficulté parfois à pouvoir prendre tout le monde parce que, monter une clinique, ça prend quand même un petit peu de temps. Sur le plan logistique, c'est pas évident. Et les massothérapeutes vont et viennent. Mm-hmm. Donc, avant d'ouvrir une clinique, je m'assure de pouvoir durer dans le temps dans ces cliniques-là. À l'heure actuelle, nous avons une quinzaine de cliniques dans le Grand Montréal et une cinquantaine de massos qui travaillent.
Oui, et ça fait des petits un petit peu partout, le spa de la rue. On parle de Drummondville, on parle de Québec, Trois-Rivières, mais également en France.
Sherbrooke aussi, oui.
Oui, et prochainement même dans l'ouest du pays, je pense, et des États-Unis.
Et les États-Unis, oui. En France, ils viennent d'ouvrir leur cinquième spa à Paris. Alors pour nous, Paris, c'est un petit peu certainement le point de départ de quelque chose qui va grossir énormément. Ici, j'ai une personne qui m'a dit, moi j'ai étudié à Vancouver et à Vancouver, il y a vraiment de très grands besoins au niveau itinérance. J'aimerais beaucoup prendre la responsabilité. Alors si tu veux prendre la responsabilité, il n'y a pas de problème. En autant qu'il y ait une école en arrière pour pouvoir justement générer un certain nombre de thérapeutes bénévoles. Il n'y a pas de problème.
Mais il faut dire que c'est une situation qui est un peu gagnante-gagnante. C'est-à-dire que le thérapeute se sent utile d'une part, apprend son travail aussi. Et puis, il y a la personne de l'autre côté qui n'aurait pas les moyens d'obtenir de tels services et qui peut se faire masser.
Oui, définitivement. Les thérapeutes, c'est vrai. Écoutez, on a des clientèles qui, généralement, sont incommodés par de l'arthrose, par des maux de dos, par des articulations douloureuses, de l'insomnie, de l'anxiété. Ce sont des personnes qui ont des besoins criants. Face à ces besoins criants, c'est évident que les manipulations de nos thérapeutes vont avoir un effet qui va être quasi instantané. Oui. On a des témoignages régulièrement. J'ai des témoignages vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu une chance de les entendre. Des messieurs qui marchaient avec une canne, qui avaient de la difficulté à faire 50-100 mètres et qui disaient, moi, j'ai lâché la canne, puis je n'ai pas de problème. Je marche. Une religieuse à l'accueil Bonneau, pour ne pas le citer, qui marchait avec un déambulateur. Au bout de 5 séances, elle a lâché son déambulateur et puis elle marche. Et
on parle de l'impact physique, des bienfaits physiques, mais j'imagine qu'il y en a aussi sur le point humain. Ce sont des gens souvent qui vivent en état d'isolement, qui sont souvent marginalisés, en retrait de la société. Être en contact avec un autre être humain, c'est beaucoup pour eux.
Oui, définitivement. Au départ, le toucher n'est pas une chose normale pour les gars et les filles qui vivent dans la rue. Ce sont des gestes qui se manifestent malheureusement plutôt par des bagarres, par des vols de cigarettes, de chaussures, de vêtements.
Par de la violence.
Par de la violence. Ouais. Le toucher, c'est pas évident. On est obligé de les réapprivoiser avant de pouvoir les toucher. Mais une fois qu'on les a apprivoisés, ils viennent nous voir, puis ils sont heureux de venir nous voir. On développe Bon, je dirais que contrairement à ce qu'on va faire dans un spa ou dans une salle de massothérapie traditionnelle, on essaye de développer une relation qui va un petit peu plus loin que la relation thérapeutique. On essaye de les conseiller, de les diriger vers un médecin si jamais on s'aperçoit qu'il y a vraiment une problématique grave. Bien souvent, ces personnes-là ont perdu confiance dans le réseau de santé ou dans tout ce qui est institutionnel. Et je crois que notre présence les aide un petit peu à resocialiser.
Oui. Vous avez également entamé des recherches sur le pouvoir du toucher
Oui.
à travers le spa de la rue. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ces expériences-là sur justement les bienfaits de se toucher, de réapprendre ça?
Nous, notre but au départ était de faire une étude sur l'impact du toucher, du massage au niveau des douleurs
Des
de la
personnes
personne cliente,
itinérantes,
oui,
oui.
des personnes clientes. Bon, on a rajouté des huiles essentielles, des préparations, des synergies d'huiles essentielles pour vérifier également quel pouvait être l'impact au niveau des douleurs et au niveau de leur maladie dégénérative. Bon, comment ça se fait? C'est qu'on a généralement une première entrevue avec le client. On recherche ses antécédents, on essaye de voir au niveau des parents, est-ce qu'il y avait de l'arthrite, est-ce qu'il y avait de l'arthrose, etc., etc. Et on évalue leurs douleurs et leur stress avant de commencer. Et à la fin de chaque traitement, on refait un questionnaire pour savoir où en est leur niveau de douleur et où en est leur niveau de stress. Et on s'est aperçu que, bon, des douleurs qui pouvaient être à 7, 8 et des fois au-dessus sur 10, tombaient généralement après un massage à 1 ou 2. Alors, c'est pour ça. Bon, ce sont des personnes que l'on suit sur une base régulière, qui viennent nous voir à toutes les 2 semaines. Et on s'aperçoit au fil du temps que la douleur va disparaître au départ pendant une journée, puis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il y en a certains qui n'ont plus aucune douleur.
Bon, diminution du taux de la douleur,
Oui.
également du niveau de stress.
Oui, définitivement. Au niveau de l'anxiété aussi, il y a une baisse d'anxiété qui est énorme. Le seul fait d'être reconnu comme une personne humaine leur
Voilà.
apporte beaucoup, parce que bien souvent, les gens ne les voient même pas dans la rue. Alors, c'est ce que je dis. Je dis, si vous n'avez pas de quoi leur donner de l'argent, offrez-leur au moins un sourire. C'est la moindre des choses. Ils ne se sentent pas invisibles.
Donc, impact positif du côté de l'aspect physique, psychologique, mais également social, Gérard, parce
Oui.
que on parle de désengorgement du système de la santé. Ces gens-là, peut-être consomment beaucoup de médicaments, ça peut les aider à réduire cette consommation-là. C'est vaste comme bienfait.
Oui, c'est très, très vaste. Et on parle de réinsertion.
Oui.
La plupart de ces gars-là cherchent à se réinsérer malgré tout. Mais la réinsertion, ce n'est pas seulement d'avoir un logement, un travail. Il faut qu'ils apprennent à resocialiser avec ce que je pourrais appeler du monde normal.
Oui.
Et je crois que notre présence les aide grandement à resocialiser.
Les bénévoles au sein du spa de la rue sont des massothérapeutes principalement. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants en santé?
Oui, définitivement. On a, bon, à peu près on favorise la diversité au niveau des massages. Donc, on va autant avoir du massage suédois que du massage californien, que du shiatsu, toute autre technique de massage, mais on va également avoir de l'ostéopathie.
Wow.
On offre des soins de pied, on offre de la naturopathie, des conseils alimentaires. On est en train de monter un programme pour leur apprendre, une fois qu'ils sont sortis, comment manger sainement,
Ah oui.
essayer d'éviter les chips, et, bon, tout ce qui peut être poison pour eux, et comment faire leur marché. On a une de nos naturopathes qui a développé un programme où elle propose de nourrir une famille de 4 personnes pour 400 $ par mois.
Oui, grand
Bon,
défi, hein?
c'est un gros défi, oui.
Oui. Je vous entends et ça me fait penser à se réapprivoiser sa santé. Bon, sa santé physique, sa santé mentale, c'est tout ça que vous leur apportez en fait. Des conseils, des outils pour réapprendre à vivre et à être dans un bien-être.
Et à se ressentir. Parce que bien souvent, ces gens-là, ils apprennent à ne plus avoir mal, à ne plus avoir froid, à ne plus avoir chaud. Ils ne peuvent pas se permettre ça. En hiver, ils marchent tout le temps. Ils marchent pour ne pas avoir froid. on ne sort pas de la rue comme ça indemne, sans aucune séquelle. Mm-hmm. Je peux vous dire que les séquelles sont souvent très, très graves. Pas seulement sur le plan psychologique, mais c'est surtout sur le plan physique.
Mm-hmm. Des gens, j'imagine, qui vieillissent beaucoup plus vite que leur âge.
Définitivement, oui.
Oui. Comment on les prépare, ces spécialistes de la santé qui viennent vous voir, qui ont envie de vous donner un coup de main? Ils n'arrivent pas comme ça à la rencontre d'une personne itinérante sans formation.
Oui.
Ah oui?
Ah oui, totalement. Ah, tout à fait. Je vais peut-être me faire crier après par mes bénévoles, mais mon sport préféré, c'est de les sortir de leur zone de confort.
Ouais.
On fait ce que j'appelle du massage de brousse. On masse assis, debout, couché, dans un fauteuil roulant, sur une chaise de cuisine, appuyé sur une table. Toutes les positions sont bonnes. Le massothérapeute est obligé de s'ajuster.
Mm-hmm.
Et je crois qu'il en sort gagnant parce qu'une fois qu'il sort du spa de la rue, il n'y a plus aucune situation dans laquelle il va se sentir mal à l'aise.
Ouais.
Alors oui, pour un thérapeute, c'est une très bonne chose. Puis pour la préparation, la seule chose qu'on leur demande, c'est respecte ton client comme si c'était un client qui payait 100 $.
Mm-hmm. Dans un
spa
luxueux.
Il n'y a aucune différence, tout à fait. Il n'y a aucune différence. On va même au-delà, que tout à l'heure je vous mentionnais. On essaye de développer, bon, je ne dirais pas une relation d'amitié, mais une relation de confiance, de copain. Oui.
Parce que je lisais un récit sur une personne itinérante qui fait affaire avec vous, en fait, qui bénéficie de vos services et qui disait « Moi, je veux toujours avoir tel thérapeute. Je viens ici aux 2 semaines et c'est lui que je veux.
» Oui, ça arrive. On essaye au maximum d'éviter ça parce que moi, j'aime bien essayer plusieurs techniques sur le même patient. Voir, certaines fois, le massage suédois va mieux fonctionner que le shiatsu. D'autres fois, ça va être le contraire. Tout dépend, en fin de compte, des problématiques.
Mm-hmm.
Si on a des problématiques énergétiques, manque de sommeil, anxiété, etc., bon, c'est vrai qu'un massage suédois ou californien va faire beaucoup de bien, va détendre, mais un travail énergétique un peu plus profond va amener beaucoup plus de relaxation. Je me suis fait dire dans certaines institutions dans lesquelles nous passons que depuis qu'on est là, ils ont baissé les anxiolytiques, ils ont baissé l'acétaminophène. Et même les tranquillisants.
Oui. Parlons-en de ces institutions-là. Vous joignez vos patients, les personnes en besoin, parmi différents organismes.
Oui.
L'accueil Bonneau, par exemple.
L'accueil Bonneau, la Maison du Père, la Rue des Femmes, la mission, le pavillon Patricia McKenzie, la mission de Old Brewery, excusez-moi l'expression, la prononciation, pardon, le bon accueil.
Vous créez un horaire, donc, et là, c'est affiché.
Oui, si vous allez sur notre site Internet, vous avez la totalité des cliniques qui sont indiquées sur un calendrier. On a en moyenne une 15 à 20 cliniques par mois.
Et 3200 soins offerts par année.
À peu près, oui.
Oui, c'est énorme, ça.
C'est pas assez.
Oui.
C'est pas assez, on aimerait beaucoup aller rejoindre directement les gars dans la rue, les filles dans la rue. Malheureusement, bon, ça prend des moyens logistiques que nous n'avons pas pour l'instant.
Mm-hmm.
Alors, pour l'instant, on va leur rencontre au niveau de ces associations.
Oui. Et vous allez à la rencontre de d'autres types de clientèle. On a beaucoup parlé des personnes itinérantes, mais vous visez aussi les personnes âgées. Vous parliez de CHSLD tout à l'heure. Mm-hmm. Des femmes aussi, des jeunes mamans.
Mm-hmm.
Oui.
Oui. Bon, c'était une de mes clientèles préférées. D'ailleurs, ce sont ce que j'appelle gentiment, et non pas d'une manière péjorative, mes petits vieux. ce sont pour la plupart des gens qui ont été oubliés dans ce que j'appelle, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes de CHSLD qui vont m'entendre, qui sont dans un mouroir, qui attendent juste de mourir.
Oui.
Et quand on arrive, c'est quasiment la fête. Ça applaudit, ça rigole, ça lève les mains. Bon, ça m'est arrivé de danser avec une de nos petites madames. On fait pas grand-chose. On fait des massages de mains, on fait de l'écoute active. Et on essaye de s'intéresser à ces personnes-là. On a aussi deux ou trois associations qui s'occupent de mères célibataires.
Mm-hmm.
Et là aussi, c'est pas un must, hein, si je peux m'exprimer.
Pourquoi cette clientèle des mères célibataires?
Ben parce que les mères célibataires, généralement, vivent sous le stress. Le stress, bon, d'être seules pour s'occuper de leur enfant, de travailler, de se réinsérer à la société. Bon, on les rencontre dans des structures adaptées où elles résident. Et je peux vous dire que les taux de stress chez ces femmes-là est très important.
Ouais.
Et on essaye aussi de mixer, de faire un massage à la mère, mais en même temps de faire un massage à l'enfant. Mm-hmm. On essaye d'apprendre aux enfants à masser un toutou.
Mm-hmm. Pour qu'il l'apprenne sur lui-même, éventuellement.
Ou qu'il l'apprenne sur lui-même, afin de pouvoir éventuellement masser sa mère.
Mm-hmm.
Quand il voit qu'un thérapeute est en train de faire un massage à sa mère, tout de suite, il a envie de faire la même chose.
Donc, une façon aussi de créer le lien
entre la mère
et
l'enfant. Exactement.
Oui.
C'est ça.
C'est vaste, votre action, Gérard.
Mm-hmm. Mais c'est passionnant.
Oui. J'imagine qu'il y a une grande différence entre ce que vous faisiez avant dans votre spa luxueux de Tremblant.
Non, c'est la même chose. À part que c'est plus agréable parce que je vais être un petit peu vulgaire, les clients sont beaucoup moins chiants.
Oui,
tout à fait.
Quel est votre principal obstacle? Je pense ne pas me tromper en parlant des sous, des
subventions. Ça reste un problème criant. Bon, on s'en sort quand même parce qu'on travaille comme on peut. On travaille sur des chaises de cuisine, on travaille sur des tapis, on travaille un petit peu comme on peut. Heureusement, on a quelques compagnies qui nous aident, notamment une compagnie qui nous fournit en huile essentielle et en huile à massage. Mais autrement, KinéConcept nous donne un petit coup de main sur le plan financier pour les petites choses. Mais notre besoin serait dans des véhicules pour pouvoir transporter du matériel, serait dans du matériel, des chaises à massage, des tables à massage, etc. Pouvoir éventuellement rétribuer des massothérapeutes pour aller faire des suivis. Mm-hmm. Par exemple, sur des personnes qui souffrent d'arthrose, aller faire des suivis 2 à 3 fois par semaine pour vraiment s'attaquer au problème de front. Mm-hmm. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas faire ça. On ne compte que sur des bénévoles.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que des gens vous ont témoigné l'intérêt d'apporter leur appui?
Oui, on a la municipalité de Laval, pour ne pas la citer, qui nous a proposé son aide. Bon, on a une possibilité. On a entrevu un espoir éventuellement de récupérer un vieil autobus que l'on pourrait aménager avec des tables à massage, des chaises à massage et aller directement sur des points de jonction où l'on retrouve des itinérants. Mm-hmm. Mais pour l'instant, c'est pas encore finalisé.
Mais une grande fierté d'avoir tous ces bébés qui naissent un petit peu partout à travers le monde. Là. Les street spa, j'aimerais ça
street
qu'on,
spa, oui.
Oui, qu'on termine là-dessus. C'est quoi ce concept-là?
Le street spa, c'est le spa de la rue en anglais. C'est notre ouverture au marché anglophone que l'on espère. Bon, on est supposé faire ça le 3 avril. Malheureusement, l'école avec laquelle on s'était entendu pour faire un événement conjoint nous a dit, écoutez, on est fermé pour Pâques. C'était justement Pâques. On est fermé pour Pâques. On n'a pas pu trouver de bénévoles et on ne pourra pas vous recevoir. Donc, on a reporté ça certainement au mois de juin ou au mois de septembre prochain.
Ben, tenez-nous au courant de ça.
Mais c'est promis, Marianne.
Gérard Piquemal, vous êtes directeur et créateur de l'organisme Le Spa de la rue, une initiative formidable, extraordinaire, qui malheureusement vient d'une grande révolte et d'une grande injustice. Il faut se le rappeler. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci, Marianne.